alone.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat, c'est bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, c'est la première émission de l'année 2007. Alors tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2007 à tous. Et puis j'espère que vous serez toujours fidèles à l'émission et à Radio Occitanie pour cette nouvelle année qui commence. Alors dans un premier temps, on va faire comme d'habitude, on va pas perdre nos bonnes habitudes, quelques petites infos, et puis ensuite je vous parlerai d'un auteur avec de ses ouvrages, on écoutera un extrait du livre audio donc de cet auteur. Alors je voulais simplement signaler que cet auteur, bon je vais vous dire son nom, le suspense s'arrêtera de suite. C'est Irène Nemirovsky, c'est une écrivain russe juive du XXe siècle. Et elle nous a été présentée, j'ai reçu un mail sur la boîte de l'émission Page à Page, d'un auditeur et donc d'un lecteur aussi, qui m'a suggéré donc cet écrivain avec notamment deux de ses ouvrages, elle en a d'autres, notamment deux. Et donc je voulais vous dire que n'hésitez pas, continuez à me soumettre des idées de thèmes, d'auteurs, de livres que vous avez aimés, parce que bien sûr ce lecteur, donc je ne sais que son prénom, il s'appelle Jean-Michel, voilà, et il m'a dit cet auteur est très intéressant, j'ai lu tel livre, et vraiment, j'ai vraiment été touchée, ça m'a beaucoup plu, peut-être que vous pourriez en parler dans votre émission. Donc voilà, j'ai Jean-Michel, si tu m'écoutes, j'ai accédé, je parle de Irène Nemirovsky aujourd'hui, en ce début d'année. Donc n'hésitez pas à me laisser vos idées et vos suggestions, et puis aussi vos critiques sur l'émission, ou des petits mots gentils aussi, c'est sympa. Alors, dans un premier temps, en janvier, moi, je vais vous parler de... Je recevrai... En janvier, il y aura beaucoup de manifestations autour du livre. Par exemple, il y aura le Salon du Livre de Montgiscard le dimanche 14 janvier. Donc, à cette occasion, je recevrai la personne qui s'occupe de ce salon. Et puis, ensuite, il y aura le Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées qui se passera à Saint-Aurens, comme chaque année, et qui est organisé par la Librairie de la Renaissance. Donc, ça se passera fin janvier. Donc, c'est pareil, je recevrai également quelqu'un qui organise ce festival. Et puis, il faut rappeler aussi que, comme chaque année, au mois d'avril, il y aura le Salon du Livre de Balma, du 21 au 24 avril. Donc, à ce moment-là, je recevrai également quelqu'un qui viendra nous parler donc de ce salon, avec les écrivains qu'il y aura, etc. Donc, vous voyez, pas mal de perspectives autour du livre pour ce début d'année. Et puis, toujours des écrivains, des nouveaux écrivains, essentiellement de la région. Et puis, des lectures de livres que j'aurais aimé ou que d'autres, que d'autres auront aimé, des auditeurs qui me les soumettront. Alors, dans les petites infos, on commence toujours l'heure du conte pour les enfants, on commence par eux, puisque c'est, Alors, l'heure du conte à la médiathèque, c'est toujours au rez-de-jardin, au Piccolo Teatro. L'accès est toujours libre et gratuit. C'est toujours les mercredis, à 11h pour les petits entre 3 et 5 ans, pardon. Et à 16h pour les plus grands à partir de 5 ans. Alors, je vous donne le numéro de téléphone pour tout renseignement, mais donc c'est libre et gratuit. Il n'y a pas besoin d'inscription. Donc, c'est le 05 62 27 64 91. 05 62 27 64 91. Donc, à la médiathèque José Cabanis. Et puis, l'heure du conte aussi, c'est à la bibliothèque Duranty, qui se situe 6 rue du Colonel Pellissier. Et là, c'est à 10h30 pour les tout-petits, jusqu'à 5 ans. Et c'est chaque mercredi également, donc 10h30 chaque mercredi. Et là, c'est pareil, c'est libre et gratuit. Et je vous donne le numéro pour vous renseigner éventuellement, 05 62 27 42 52, 05 62 27 42 52. Voilà, ça c'était pour l'heure du conte pour les petits. Et puis, le café philo continue. cette année encore, toujours à Revel. Donc la prochaine, le prochain Café Philo aura lieu le samedi 20 janvier de 17h à 19h. Et le thème est le suivant, la raison a-t-elle des limites? Voilà, c'est un sujet assez intéressant. Donc si vous intéresse, vous pouvez aller en débattre à Revel. Donc c'est au Café Les Arcades, salle du premier étage, place de la Halle centrale à Revel. Et je vous donne le numéro de téléphone. 05 61 83 57 12 05 61 83 57 12 et là c'est pareil, l'accès est libre et gratuit, les consommations sont au tarif normal. Voilà donc samedi 20 janvier à 17h pour la raison a-t-elle des limites si ce sujet vous interpelle. Et puis ensuite, vous dire également qu'il y a un atelier de lecture de poésie le samedi 13 janvier à la médiathèque José Cabanis de 10h30 à 12h30. Et c'est au petit auditorium donc de la médiathèque au troisième étage. C'est un atelier de lecture de poésie animé par Blandine Poney. Et donc il s'agit de rencontrer la poésie contemporaine à travers un choix de textes et sur des propositions simples. Et puis de travailler ensemble le dire à haute voix. Comment adresser le texte, trouver sa voix, prendre la parole. Donc c'est là par contre il faut s'inscrire. Donc c'est au 05 62 27 45 24 05 62 27 45 24. Donc c'est le samedi 13 janvier de 10h30 à 12h30 à la médiathèque. Et puis je vous rappellerai simplement encore que le prix SNCF du Polar dont je vous avais parlé en fin d'année 2006 est toujours d'actualité. C'est un authentique prix des lecteurs qui réunit plus de 1000 passionnés de romans policiers dans toute la France. Et grâce aux 12 comités de lecture régionaux et au site que je vais vous donner, vous pouvez vous inscrire librement à tout moment de l'année. Donc le site c'est www.polar.sncf.com. Voilà, www.polar.sncf.com. Voilà, donc si vous avez des petites choses que vous, au fond des tiroirs, des petits polars que vous n'avez jamais montrés à personne, vous pouvez les envoyer sur ce site, sur cette adresse, et peut-être, eh bien, recevoir le prix du polar de l'année 2007, qui sait.
Page à page, Claire Ambille.
Poupoupidou. Alors, comme je vous le disais au début de l'émission, je vais vous parler donc de Irène Némirovsky, cette auteure russe juive qui est née en Ukraine en 1903 et qui a émigré après en France et qui a écrit beaucoup d'ouvrages et qui est morte, tragiquement au cours de la Seconde Guerre mondiale. Comme malheureusement beaucoup de juifs à cette époque. Et donc je vais d'abord vous donner un peu sa biographie et puis sa bibliographie. Et puis dans un second temps, je vous parlerai un petit peu du livre Le Bal, qui est un de ses livres fétiches, qui est très court mais très, très prenant, que moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Et puis dans un deuxième temps, on écoutera donc un passage, je vous parlerai d'abord un petit peu donc du livre L'Enfant Prodige, et puis on écoutera un passage donc du CD audio de ce livre qui m'a également beaucoup plus, mais qui n'a pas du tout le même thème que Le Bal. Enfin, je vais vous le dire dans un instant. Alors, on commence par la biographie de Irène Némirovsky. Irène Némirovsky est originaire de Kiev. Elle est née en 1903 dans une famille de financiers juifs russes. Son père, Léon Némirovsky, était un des plus riches banquiers de Russie. La jeune fille connut une enfance particulièrement heureuse à Saint-Pétersbourg. Elle y apprit d'ailleurs le français avant de connaître le russe. Oui, parce qu'elle avait une institutrice française, une gouvernante française qui donc lui a appris sa langue, le français. Mais lorsque la révolution éclate dans le pays en 1917, Léon Némirovsky préfère éloigner sa petite famille du pays en crise et s'installe en France en juillet 1919. Oui, avant d'aller en France, ils sont passés par d'autres pays, mais bon, la destination finale était bien la France. Et Irène reprend alors brillamment ses études et décroche en 1926 sa licence de lettres à la Sorbonne. Donc, vous voyez, elle est très imprégnée de la France, du français, et voilà. 1926 est d'ailleurs une année clé de la vie de la jeune femme, puisqu'elle publie son premier roman, Le Malentendu, même si elle avait déjà publié auparavant quelques contes et nouvelles, et ce, dès 1923. Et puis elle épouse un homme d'affaires juif russe, Michel Epstein. En 1929, elle donne la naissance à sa première fille, Denise, et publie la même année David Golder, son premier grand succès, qui est adapté d'ailleurs au théâtre et au cinéma. Et puis Le Bal, donc un des livres dont je vais vous parler, qui est en 1930, donc l'année suivante, et qui raconte le passage difficile d'une adolescente à l'âge adulte. D'ailleurs, l'adaptation au cinéma de ce livre, Le Bal, révélera Daniel Darieux. De succès en succès, Irène Némirovski devient une égérie littéraire, amie de Kessel et Cocteau, et donne naissance en 1937 à sa seconde fille, Elisabeth. La Seconde Guerre mondiale mettra un terme brutal à ce brillant parcours. En 1938, Irène Némirovski et Michel Epstein se voient refuser la nationalité française, mais n'envisagent toutefois pas l'exil, persuadés que la France défendrait ses juifs. Ils préfèrent toutefois envoyer leurs deux filles dans le Morvan. Lâchée par ses amis et son éditeur, Irène porte l'étoile jaune. Elle rejoint, accompagnée par son mari, ses deux filles dans le petit village où elles étaient cachées. C'est là qu'Irène Némirovski rédigera le récit de « Suite française », persuadée qu'elle allait bientôt mourir. Elle est arrêtée devant ses enfants par les gendarmes en juillet 1942 et envoyée à Auschwitz, où elle succombera du typhus quelques semaines plus tard. Son mari, Michel Epstein, qui avait tout tenté pour sauver sa femme, est également déporté en novembre de la même année et immédiatement gazé à son arrivée. Ses deux filles sauvent quelques documents, puis sont placées sous la tutelle d'Albin Michel et Robert Esménard, qui dirigea la maison d'édition, jusqu'à leur majorité. Les deux filles ont entretenu la mémoire de leur mère avec plusieurs rééditions et la publication d'une biographie en 1992, Le Mirador. Et puis en 2004, Denise Némirovski, la première fille donc d'Irène, découvre au fond d'une malle le manuscrit inachevé de Suite française qui raconte entre autres l'exode de juin 1940, fait de lâcheté et de petits élans de solidarité. Elle se décide à le publier et le roman a la surprise de se voir consacrer le prestigieux prix Renaudot, donc en 2004. Surprise, car c'est la première fois dans son histoire que le prix est remis à un auteur disparu. Mais ce n'est que justice quand on sait que jamais Irène Némirovski n'avait été distinguée de son vivant. Et ça, c'est vrai que c'est bien dommage parce que vraiment, tous ses livres sont des petites perles à eux tout seuls. Donc je vais vous lire un petit peu ce qu'elle a écrit, Irène Némirovski. Donc il y a eu Le Malentendu en 1926, puis l'enfant génial qui a été rebaptisé L'Enfant Prodige et qu'on va écouter en CD audio tout à l'heure, donc qui est de 1927. Et puis David Golder en 1929, suivi du Bal en 1930, dont je vais vous parler, Les Mouches d'automne, en 1931, L'affaire Kourilov en 1933, Film parlé en 1934, Le pion sur l'échiquier en 1934 également, Le vin de solitude en 1935, Jézabel en 1936, La proie en 1938, Deux, 1939, Les chiens et les loups en 1940, La vie de Tchekhov, ça c'est posthume, en 1946, Les bleus de ce monde, posthume également en 1947, Les feux de l'automne, posthume également en 1957, Dimanche et autres nouvelles, qui est posthume également en 2000, et puis Destinée et autres nouvelles, en posthume également en 2004, et puis Suite française, qui est posthume également en 2004, Suite française qui est vraiment une épopée, qui sont plus, enfin, comme un journal intime, en fait, ça relate, c'est historique, puisque ça se passe, elle commence à l'écrire quand elle est dans ce village du Morvan, c'est plus comme un journal intime qui mêle à la fois sa vie privée et les faits historiques qui se passent à ce moment-là. Donc c'est vraiment un livre très, très très intéressant au niveau aussi historique et très poignant aussi parce que bon ben Irène Némirovski c'est une voilà c'est quelqu'un de très sensible et donc on y découvre beaucoup de sa vie quotidienne, de ce qu'elle, de ses émotions, de ses pensées, etc. Et voilà. Donc moi je vais vous parler dans un premier temps du bal. Le bal donc c'est un livre qu'elle a écrit en 1930 et je vais vous raconter simplement, je vais vous lire un petit peu le résumé du livre pour vous donner une idée. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc le résumé du livre donc Le bal, c'est je vous le lis. Récemment passée de la pauvreté à l'opulence, à la faveur d'un miraculeux coup de bourse, les Kampf décident de donner un bal pour se lancer dans le monde. Antoinette Kampf, 14 ans, rêverait d'y assister, ne serait-ce qu'un moment. Mais la décision de Madame Kampf, peu soucieuse d'exhiber devant d'éventuels admirateurs une fille déjà si grande, est irrévocable. Antoinette ira se coucher dans la lingerie puisque sa chambre doit servir de vestiaire. Sous le coup de la révolte et du désespoir, Antoinette ne prémédite pas sa vengeance. Elle l'accomplit d'un geste, comme dans un état second, et cette vengeance est terrible. Les affres tragicomiques des parvenus qui reçoivent pour la première fois des gens qu'ils méprisent et dont ils se savent mépriser, la rivalité mère-fille éclatant enfin au grand jour sous un prétexte frivole, l'âpre solitude de l'enfant qui n'est déjà plus tout à fait l'enfance, c'est tout cela que raconte ce livre étincelant et bouleversant, par l'art qui s'y développe d'une sorte de cruauté infime, par la drôlerie grinçante, par le courant de tendresse étouffée qui traverse le livre, le bal d'Irène Némirovski mérite de figurer entre Mademoiselle Else de Schindler et Frankie Adams de Carslan McCullers, parmi les très rares chefs-d'œuvre consacrés à l'enfance. Adapté par le cinéma, le bal offrit son premier rôle à Daniel Darieux. Et voilà, donc comme je vous le disais, voilà ce livre qui a été adapté au cinéma, hein, donc avec le rôle de Daniel Darieux. Donc voilà, ce livre, ça, c'est voilà une adolescente qui est un peu en rébellion face à sa mère et qui va donc d'un seul geste, c'est vrai, hein, je vous dirai pas lequel, mais d'un seul geste va vraiment venger tout ce qu'elle ressent au fond d'elle contre sa mère, contre cette situation, sa solitude, etc. Et donc voilà, donc je vous invite vraiment à le lire, Le bal d'Irène Némirovski. En plus, il est très court, hein, donc c'est vraiment du condensé, mais du condensé de quelque chose de vraiment d'extraordinaire. Et puis donc dans un deuxième temps, je vais vous parler donc du second livre et là qu'on va écouter parce qu'il est très bien lu par une dame qui s'appelle Jeanne Balibar, qui a une voix magnifique. Et donc le second livre, c'est L'enfant prodige. Alors L'enfant prodige, je vous rappelle, 1927. Le résumé de ce livre, le voici. Dans la taverne d'un port de la mer Noire, Ismaël, un petit garçon juif doté d'une voix et d'un sens de la poésie hors du commun, chante les douleurs et les joies des truands, des prostituées, de tous les misérables qui se retrouvent dans le bouge. Un soir, un poète déchu et ivrogne, qui fait couler à flot l'or et la vodka, écoute le gamin et en est subjugué. Il l'offre à sa maîtresse, riche veuve, désœuvrée, qui s'entiche de l'enfant. Ce gamin, pour qui tout le monde voyait en lui un enfant prodige, n'était que pour lui l'instinct de création, de poème et de chant. Le jour où il a voulu travailler son art, il s'est perdu dans la structure de l'écriture et il en a perdu son imagination et son talent, jusqu'à se rendre malade et frôler la mort. Dès lors, la déception de son entourage, plus la perte de son imaginaire et la perte de sa création intuitive, lui ôte le goût de la vie et il s'abandonne donc vers l'autre monde. Donc c'est une fin assez... assez tragique ce livre. Je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé et c'est vrai que bon, c'est voilà, ça laisse réfléchir le lecteur. Ça, voilà, est-ce qu'il faut vraiment travailler son art ou le laisser comme ça à l'air libre, je dirais. Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Mais enfin bon, le petit Ismaël, il finit pas bien. Hein. Je veux dire, c'est un livre un peu triste, mais un très très beau livre. En plus, si vous le prenez en audio, le livre audio, comme on va l'écouter là maintenant, il y a beaucoup de musique au cours de la lecture, donc interprétée par Jeanne Balibar. Bar. Il y a plein de musiques tziganes qui égrènent en tout cas la lecture de ce livre et c'est vraiment très très agréable. Alors le mieux, c'est de l'écouter, vous vous en rendrez compte dès tout de suite.
Un enfant prodige. Irène Némirovski. Ismaël Baruch était né un jour de mars où il neigeait très fort, dans une grande ville marine et marchande du sud de la Russie, au bord de la mer Noire. Son père habitait dans le quartier juif, non loin de la place du marché. Il était de son état revendeur de vieux habits et de ferraille. Il portait encore le caftan usé, des babouches et des courtes mèches bouclées appelées paillesses de chaque côté du front comme il sied. Sa femme l'aidait dans son commerce et lui faisait des enfants. Sur ses cheveux, coupés ras le jour de son mariage selon la loi, elle avait une perruque noire, laineuse et frisée, qui lui donnait la vague apparence d'une négresse lavée par les neiges et les pluies du nord. Elle était travailleuse, point plus avare qu'il ne fallait, et de bonne conduite. Elle se souvenait de temps plus heureux, car son père avait été riche avant qu'on ne brûlât sa maison un jour de pogrom, le dimanche de Pâques qui suivit l'assassinat de l'empereur Alexandre II. De son opulence passée, il ne restait à la mère d'Ismaël que deux anneaux d'or aux oreilles. Il lui était plus cher que la vue. Il tintait avec un bruit clair, moqueur, tandis qu'elle allait et venait en robe d'indienne souillée et fripée, rangeant le magasin ou lavant le plancher le vendredi, ou coupant en toutes petites tranches le pain noir et les gousses d'ail qu'elle distribuait à sa maisonnée. Celle-ci augmentait tous les ans, car les enfants pullulaient dans le quartier juif. Ils poussaient dans la rue, ils mendiaient, se querellaient, injuriaient les passants, se roulaient demi-nus dans la boue, se nourrissaient d'épluchures, volaient, jetaient des pierres aux chiens, se battaient, emplissaient la rue d'une infernale clameur qui ne s'apaisait jamais. Les Baruch, pour leur part, en avaient eu 14. Dès qu'ils devenaient un peu grands, ils émigraient vers le port, où ils faisaient toutes sortes de métiers bizarres. Ils aidaient les débardeurs, les portefaix, ils vendaient des pastèques volées, demandaient l'aumône et prospéraient comme les rats qui couraient sur la plage autour des vieux bateaux. Ils ne revenaient guère chez eux, happés par la ville ou par la mer. Beaucoup partaient sur les grands vaisseaux qui s'en allaient en Europe chargés de céréales et de grains. Mais la plupart mouraient en bas âge. Les épidémies infantiles sévissaient dans le quartier juif, elles balayaient les enfants par centaines, les Baruch en perdirent ainsi la moitié. Leur voisin, le menuisier, consentait à clouer quelques planches en manière de cercueil en échange d'un vieux pantalon ou d'une casserole bossuée. La mère pleurait un peu, déshabillait le petit corps et le couchait dans la boîte neuve qui sentait la résine de sapin. Baruch l'emportait sous son bras jusqu'au cimetière juif. Triste enclos où les tombes privées de croix se pressaient les unes contre les autres, où les fleurs ne poussaient pas. Et bientôt, un autre enfant naissait à la place de celui qui était mort, portait ses vêtements et occupait son coin sur la vieille paillasse qui servait de lit à toute la famille. Puis il grandissait, et s'en allait à son tour. Quand Ismaël eut 10 ans sonné, il resta seul. Il s'en aperçut à ce que sa part de pain et d'ail était devenue plus grosse et à ce que son père le mena un jour chez le rabbi qui enseignait aux enfants du quartier l'alphabet juif, moyennant 1 rouble par mois. C'était une somme que Baruch n'aurait pu distraire de son maigre budget s'il eût eu d'autres fils ou l'espérance d'en avoir. Mais sa femme et lui devenaient vieux, et Ismaël était leur cadet. Ismaël apprit bien vite à lire, à écrire, à psalmodier des prières et à réciter par cœur des versets de la Bible. Chez le rabbi, il faisait chaud, et l'hiver, Ismaël aimait à demeurer pendant 2 heures, blotti dans le rayonnement du poêle, tandis qu'autour de lui, une 20aine de petites voix répétaient, sans se lasser, une phrase sainte, monotone et plaintive. Mais quand on voulut lui apprendre à compter, il se sauva, et s'en fut vagabonder dans le port, comme ses frères aînés avaient fait avant lui. La ville était alternativement grillée par les soleils d'été ou cinglée par les vents d'hiver. Mais au printemps, le flot sauvage et libre de la mer était chargé de tous les parfums de l'Asie. Ismaël aimait la ville et le port. Il aimait aussi la place du marché, les matins d'été, avec ses amoncellements de tomates, de piments, de melons et les chapelets d'or des oignons entortillés autour des établis. Les marchandes ouvraient le ventre rouge des poissons, dans des seaux d'eau salée marinaient de petites pommes vertes acides dont les ménagères faisaient des conserves. Sur la place du marché, on voyait des hommes de trois races différentes qui se coudoyaient sans jamais se mêler. Des Russes, avec leurs longues barbes pouilleuses et leurs yeux doux dans des faces simples, taillées en deux ou trois grands traits comme des joujoux de bois blanc. Pop aux longs cheveux droits de Christ, paysans en blouse de coton, marchands en blouse de soie. Puis des Tartares, la tête enveloppée d'un turban qui ne parlait pas beaucoup et qui se contentait d'offrir en silence aux acheteurs leurs éventaires chargés de nougat, de raat loukoum et de papier d'Arménie au parfum d'encens. Des Juifs, enfin, vêtus de leurs houppelandes graisseuses, qui sautillaient comme de vieux oiseaux, des échassiers déplumés et qui comprenaient tout, connaissaient tout, vendaient de tout et achetaient davantage. Mais Ismaël, à eux tous, Juifs, Tartares ou Russes, préférait la racaille indéterminée qui grouillait dans le port, peuple du Levant qui sente l'ail, la marée et les épices, que la mer avait ramassées dans tous les coins du monde et jetées là comme une écume.
Et oui, voilà, on se laisserait bien prendre hein, pour aller jusqu'au bout du livre, mais bon, il faut que ça s'arrête parce que le temps nous rattrape et il est bientôt 10h, fin de l'émission de Page à Page. Alors je vous rappelle le titre de ce que vous venez d'écouter, c'est « Un enfant prodige » d'Irène Némirovski, qui a été donc écrit en 1927 par cet auteur russe et juive. Et voilà, donc il est disponible en audio et puis également en livre. Et voilà, ainsi s'achève notre émission. Je voulais simplement vous rappeler que Page à Page a un site, donc je vous le donne. Et dans ce site, vous pouvez donc, comme Jean-Michel me l'a fait, c'est-à-dire me donner vos idées d'auteurs, d'écrivains, vos idées de livres que vous aimeriez que je traite ici à Page un jeudi matin. Donc le site de l'émission, c'est pageapagetoulouse.free.fr, le tout en attaché en minuscules et au singulier. Et puis donc dans ce site, il y a l'adresse mail, je vous la donne quand même, c'est clairlivre@yahoo.fr. Je crois que c'est ça. Attendez, clairlivre@yahoo.fr. Oui, c'est ça. Donc c'est clairlivre en attaché en minuscule au singulier pour livre et voilà, et donc vous pouvez me transmettre toutes vos idées, vos suggestions et puis je vous dis vos impressions aussi sur l'émission, si vous avez envie que je la fasse différemment ou enfin voilà, toutes vos propositions seront les bienvenues et j'espère que d'ailleurs Jean-Michel nous aura écoutés pour voir que bien voilà j'ai accédé à son désir de faire connaître donc cet auteur Irène Némirovski et donc sa bibliographie. Bon là j'ai parlé que de ses livres, hein, Le Bal et puis Un enfant prodige, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle en a écrit plus d'une quinzaine et Une suite française, c'est un très très bon livre également et donc je vous invite vraiment à découvrir cet auteur si vous ne le connaissiez pas encore. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour, le jeudi, de 9h30 à 10h, sur les mêmes ondes de Radio Occitanie. Pour Toulouse, c'est 98.3. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et lisez toujours plein de livres, c'est toujours bien agréable. Et ça fortifie l'esprit. Voilà! Adiciats.
poupidoupi.